Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara.
À 6h40, c'est l'heure de votre chronique que vous consacrez ce matin au philosophe allemand Jürgen Habermas.
Oui, Habermas, absolument, parce qu'il y a une importante actualité éditoriale, deux forts volumes de textes inédits donc, qui paraissent demain, et une biographie. Il me faudra bien deux jours pour en parler. Je reviendrai vous en parler demain aussi, Clara. Merci, on vous retrouve à 8h pour le journal. Mais merci pour le soleil aussi. On le voit pas encore, mais...
Le journal des idées, Jacques Meunier.
Voilà, donc deux forts volumes de textes inédits couvrant une période allant de 1971 à 2017, ainsi qu'une biographie intellectuelle du philosophe allemand due à Stefan Müller-Dohm, paraissent demain donc chez Gallimard. Leur lecture croisée s'avère extrêmement éclairante pour poursuivre l'itinéraire intellectuel de Habermas, donc l'inventeur de l'éthique de la discussion. Intitulé Parcours 1, le premier volume rassemble des conférences et articles portant sur la sociologie et la théorie du langage, ainsi que sur la pensée post-métaphysique, soit en gros post-heideggerienne. Il s'ouvre sur un texte autobiographique qui, malgré l'embarras affiché de l'auteur face à l'exercice, révèle les lignes de force qui l'ont conduit donc à la pensée de l'espace public, espace d'échange et de communication fondé sur la raison. Parmi elles, l'expérience précoce de la maladie, une malformation congénitale du palais qui entraîne des opérations à répétition, suscite le sentiment d'une dépendance qui aurait donné sens à l'importance de notre rapport aux autres. Et paradoxalement, le handicap qui s'ensuit, une nasalisation prononcée, des difficultés d'articulation, lui fait éprouver concrètement l'importance du langage, l'expérience de la discrimination et de l'exclusion éveillant quant à elle des sentiments moraux. La morale, en effet, souligne-t-il, est un dispositif qui se tisse avec les moyens de la communication afin de protéger les individus de la particulière vulnérabilité à laquelle les expose leur socialisation par la parole. Mais le plus décisif réside sans doute en ceci. La Seconde Guerre mondiale s'est achevée peu avant mon 16e anniversaire, suivirent jusqu'à la création de la République fédérale et jusqu'au début de mes études universitaires, à l'été 49, 4 années d'une adolescence en permanence à l'affût. J'étais de ces jeunes ayant eu la grâce d'une naissance trop tardive, assez vieux pour, à un âge moralement impressionnable, être de plein pied avec les bouleversements historiques en cours, trop jeune pour qu'on puisse nous imputer ce qui s'était produit politiquement. C'est Helmut Kohl, né en 1930, qui l'a entonné fortissimo, ou bien Günther Gauss, né comme Habermas en 1929, la paternité de la formule n'est pas élucidée, qui ont employé cette définition d'un habitus générationnel propre aux jeunes Allemands qui n'avaient connu que le nazisme comme régime politique et découvraient progressivement la réalité du crime de masse perpétré dans leur environnement proche, difficile et paradoxal grâce d'une naissance trop tardive. Ceux-là qui n'avaient pas connu l'époque de Weimar, qui avaient connu dans le climat lourd, je cite, chargé de ressentiment, du kitsch patriotique, du monumentalisme et du culte de la mort, comme la seule réalité normale, la redécouverte des dégénérés de l'expressionnisme, de Kafka, Thomas Mann, Hesse, ou de la littérature mondiale, de langue anglaise, ou encore de l'existentialisme sartrien, Freud ou Marx, leur faisait l'effet d'un grand coup de vent nouveau, avec, en contrepoint sinistre, la révélation de la solution finale. Comme le rappelle son biographe Habermas, suite à la radio en 1945, les procès de Nuremberg, il voit un film documentaire sur les camps de concentration et ressent alors brutalement la question de la responsabilité que Thomas Mann avait distinguée de celle de la culpabilité qui n'incombait pas forcément au peuple allemand dans son ensemble. Quoi qu'il en soit, le jeune Habermas opte alors pour deux engagements. Une politique de la mémoire qui l'amènera à dénoncer le déni allemand d'un passé qui passe mal et notamment la reconduction à leur poste des élites compromises avec le nazisme dans le nouvel État fédéral, et d'autre part une identification sans réserve à l'idée de démocratie. La première option le conduira notamment à renoncer à son engouement pour la philosophie de Heidegger à l'occasion de la publication de l'Introduction à la métaphysique, un cours de 1935 publié en 1953 sans le moindre commentaire et où il est question dans une phrase sur la la philosophie des valeurs, de la vérité interne et de la grandeur du mouvement nazi. Habermas, très influencé par la pensée du philosophe, en particulier dans sa thèse sur Schelling, publie dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung un article intitulé « Pensée avec Heidegger contre Heidegger » où il souligne la coloration fasciste de cette époque où le cours fut professé et exprime une franche colère devant le mutisme consensuel quant au passé le plus récent. Pour Habermas, le scandale venait surtout du refus du philosophe nazi de répondre moralement et politiquement d'une criminalité de masse dont à l'époque, 8 ans après la guerre, plus personne pratiquement ne parlait. Et c'est avec la colère, l'une des raisons décisives de son engagement en faveur de la démocratie, dont il n'était pas dit qu'elle prendrait racine dans les têtes et les cœurs des citoyens allemands. Pour qu'un tel processus puisse s'engager, écrit le philosophe, il était vital qu'il reposât sur une formation de l'opinion publique, recourant si possible au débat public, d'où ses interventions dans la presse et les revues, car, écrira-t-il plus tard, c'est cette capacité à la colère qui fait des chercheurs des intellectuels.